de temps d'enfants. Et quand nous voyons les enfants, nous savons que les femmes travaillent ensemble avec Dieu pour faire venir dans le monde ces enfants que nous aimons tant. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, il dit, « Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. » Et verset 1, chapitre 6, « Puisque nous travaillons ensemble avec Dieu. » Puisque nous travaillons ensemble avec Dieu. C'est Dieu qui donne la vie. Mais les femmes travaillent ensemble avec lui pour amener dans le monde les enfants que nous avons parmi nous. Les enfants, c'est un miracle. Les femmes qui les amènent, c'est un miracle. Bien sûr, les hommes ont quelque chose à faire dans tout cela. Mais c'est le fait que quand nous travaillons ensemble avec Dieu, c'est un miracle. Il y a un autre miracle. C'est le miracle quand quelqu'un est amené à Christ. Un cœur de pierre est transformé dans un homme qui est lié avec Dieu comme un enfant. Ça, c'est un miracle. Donc, chacun de nous, quand nous travaillons ensemble avec Dieu pour amener quelqu'un à Christ, nous sommes en train de travailler un miracle. Et quand nous sommes amenés nous-mêmes, nous faisons partie d'un miracle. Il y a un troisième miracle, et c'est le moment quand nous sommes ensemble ce matin, le dimanche matin, pour faire partie de ce qui est le repas du Seigneur. Quand Jésus a parlé de cela la première fois, quand il a institué le repas du Seigneur dans les évangiles, il y a dans chapitre 26 cette expression. Il a dit, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Et ensuite il dit ceci, et c'est là où on voit le miracle. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Il a dit cela avant de mourir. Mais il a dit, je vais refaire cela avec vous. Et je referai cela lors de la venue du royaume de Dieu. Maintenant, depuis 2000 ans, nous partageons le repas. Ça veut dire que le royaume existe depuis le jour de Pentecôte. Et nous faisons partie de ce royaume. Et chaque fois que nous partageons le repas du Seigneur, c'est un miracle. C'est le miracle du Christ vivant qui a promis qu'il va être là parmi nous quand nous partageons le repas du Seigneur. Bien sûr, il y a d'autres qui sont soit rebelles, soit négligents, qui ne viennent pas à ce repas. Donc, il manque la présence du Seigneur à ce moment-là. Quand nous sommes ensemble par invitation à ce repas, c'est un moment que nous affirmons notre foi en Christ vivant. Parce qu'il a dit, je serai là avec vous. Alors, quand nous partageons ce repas ce matin, c'est avec la ferme conviction d'avoir que Christ est là. Mais deuxièmement, le fait de le faire est un témoignage que nous croyons qu'il est là. Et il n'y a pas d'autre chose qui prend une priorité à cette invitation. Ni les voyages, ni les sports, ni les concerts, ni la famille. Il n'y a rien plus important que cette invitation de celui qui est le roi dans son royaume et qui a promis d'être là avec nous ce matin. Quand vous prenez le pain et quand vous prenez la coupe, vous êtes parti d'un miracle ce dimanche matin. Prions. Notre Père, pour cette occasion sacrée dans la vie de chacun, nous te remercions et surtout par la promesse de ton Fils parmi nous. Et Père, nous voulons à ce moment-ci affirmer ce qui est pour nous une expression de foi en prenant ce pain. Et en le faisant, parce que tu l'as dit, nous formons un seul corps. Et nous affirmons, Père, que ton Fils est notre chef de son corps. Notre chef. Merci, Père, pour ce sacrifice, mais aussi pour la grâce qui est derrière le sacrifice et l'amour qui a amené cette grâce dans notre vie pour que nous soyons tes enfants, passables de partager ce repas avec ton Fils. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Bonjour à tout le monde, que je n'ai pas encore dit bonjour. Je vous apporte les salutations aussi de Lausanne, de votre sœur Église. Je vous remercie de m'avoir invité pour être avec vous ce matin, pour partager un peu la joie de notre salut, de vous remercier pour vos prières dans mes jours difficiles, dans votre soutien et vos encouragements. Quelqu'un m'a demandé, plusieurs m'ont demandé comment j'allais. Eh bien, je suis un vaudois adapté et j'ai adapté l'expression vaudois. Quand on demande un vaudois, il ne nous donne jamais une réponse directe. Il dit plutôt. Plutôt bien, plutôt mal. Ça me rappelle une fois que, après la prédication, le mari est revenu du culte, la femme restait à la maison pour faire la cuisine. Elle lui pose la question, quel était le sujet de la prédication ce matin? Alors il lui dit, je pense que c'était sur le péché. Alors elle lui pose la question, est-ce qu'il était pour ou contre? Alors il réfléchit de nouveau, il dit, tu sais, je pense qu'il était plutôt contre. Voilà le vaudois. C'est peut-être pourquoi le vaudois ne répond pas à l'invitation de Jésus-Christ comme il devrait. Il suit Jésus-Christ plutôt au lieu de le vraiment suivre. Ce matin, j'aimerais partager avec vous quelques pensées au sujet de se remettre en question. Jésus est venu dans le monde, il dit lui-même, dans Jean chapitre 9, verset 39, je suis venu dans le monde pour se remettre en question. Autrement dit, il est venu dans le monde afin que nous nous examinions nous-mêmes. Et cela est nécessaire pour le chrétien de le faire. Et surtout peut-être à la fin de l'année, de s'examiner comment est-ce que j'ai vécu pour le Seigneur. Et pour moi-même, pour la famille. Vous savez que si on ne fait pas cela, on risque, comme l'apôtre Paul dit, de faire un naufrage spirituel et puis perdre sa vie. Malgré qu'un jour on a accepté le Christ comme notre sauveur, comme le chef de notre vie, mais avec le temps on oublie, avec tout ce que la télé nous bombarde de bonnes choses, la bonne bière par exemple, le bon football, le meilleur ceci, le meilleur cela, le meilleur ordinateur. Et si vous ne faites pas attention, vous aurez deux ou trois vieilles machines qu'on appelle l'ordinateur, qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire. Et l'apôtre Paul demande de s'examiner. Il demande aux Corinthiens, par exemple, de s'examiner avant de prendre le repas du Seigneur. Pas d'examiner quelqu'un d'autre, s'il est digne de prendre le repas du Seigneur, mais de s'examiner soi-même. Et l'apôtre Paul, à la fin du deuxième épître aux Corinthiens, il exhorte les Corinthiens, examinez vous-même si vous êtes dans la foi. Alors, l'église de Corinthe était une église assez grande. Elle était fière de sa foi, de ses dons et de tout ce qu'ils étaient. C'est pourquoi l'apôtre Paul le demandait. Certains s'étaient déjà éloignés du Christ. C'est pourquoi il leur demandait de s'examiner s'ils étaient dans la foi. Cela est vraiment nécessaire pour faire un bilan où nous sommes spirituellement. Par exemple, le prophète Jérémie accusait le peuple de Dieu, le juif. Il n'y a personne ne se demande qu'est-ce que je fais. Alors, comme chrétiens, nous devons nous poser cette question. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça plaît le Seigneur? L'apôtre Paul exhorte aussi cette église de Corinthe de faire tout ou d'avoir notre but de lui plaire, de plaire au Seigneur pour le suivre. Je vais prendre un exemple. L'État nous force de remettre en question la voiture qu'on conduit. Chaque 3 ans, je ne sais pas comment ça se passe dans le canton de Genève, mais à Lausanne, tous les 3 ans, il faut présenter la voiture pour un examen. Je ne pense pas que c'est pour créer les emplois. C'est pour contrôler si la voiture est en bon état, afin de ne pas causer des accidents. Pas nécessaire de se mettre en danger soi-même et ceux qui sont sur la route. Et c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. On contrôle les avions. C'est pourquoi je n'ai pas peur de prendre l'avion. Parce qu'il y a moins d'accidents mortels si on voyage en avion qu'en voiture. Et puis il y a aussi des bateaux. On remet en question le contrôle. Et si vous faites attention, quand il y a un naufrage, il y avait plusieurs naufrages dans ces dernières 2-3 ans, et puis ils ont trouvé qu'il y avait une faute. La porte ne se fermait pas comme il faut. Ou ceci ou cela, il n'était pas comme il faut. Alors, si on examine la voiture tous les 3 ans, le bateau, les avions, combien plus nous avons besoin de nous remettre en question. Cela est vraiment nécessaire pour se poser la question, qu'est-ce que je crois? Et vous savez, dernièrement, il y avait plusieurs hommes d'État, plusieurs hommes dans la littérature qui ont écrit des livres, ce que je crois. Et je suis un être curieux pour savoir ce que les autres croient. Alors j'ai dans ma collection environ une trentaine de livres de gens qui ont écrit, qui ont exprimé ce qu'ils croyaient. Et cela m'a encouragé de m'examiner moi-même de temps en temps. Qu'est-ce que je crois? Et historiquement, l'Église serait mise en question. Il y avait des hommes qui ont forcé l'Église de se remettre en question. Il y a 5 siècles, il y a Martin Luther qui a vraiment mis l'Église devant la question « qu'est-ce qu'on fait ?» Et depuis, on fait toujours, on remet en question notre foi. Il y a la réforme, après il y a la restauration, etc. Et cela est bon. Et vous savez, même aujourd'hui, l'Église catholique, par exemple, serait mise en question. Et bientôt, vous entendrez que Martin Luther était réhabilité. Ça prend 5 siècles, mais il fallait faire cela. Donc, qu'est-ce que je crois au sujet de Jésus-Christ? Cela est capital. L'apôtre Paul disait à l'église de Corinthe, parmi vous, je voulais savoir rien d'autre que Jésus-Christ et lui crucifié. Il y avait tant de choses dans l'église de Corinthe, mais ce qu'il voulait savoir, c'est Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ crucifié pour chacun d'eux, pour chacun de nous. Et c'est cela ce que j'aimerais qu'on pense ce matin. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour nous sauver. Et il dit que, il dit lui-même, je suis venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Alors, est-ce que vous avez trouvé perdu? Est-ce que vous avez posé cette question? Suis-je perdu? Enfin, plusieurs d'entre nous, nous avons nous posé cette question et nous avons réalisé que Jésus-Christ vraiment est venu chercher ceux qui sont perdus et pour les sauver. Et nous avons accepté, nous avons admis, oui, je suis perdu, j'ai besoin de lui. Alors pour ceux qui n'ont pas fait cette décision encore, ils n'ont pas encore fait cela, j'aimerais que vous vous posiez cette question. Où suis-je spirituellement? Suis-je un peu dans le nuage, dans le brouillard? Ou est-ce que j'acceptais ce salut de Jésus-Christ, mais je suis éloigné de lui par toutes sortes de choses? Est-ce que vraiment nous avons confessé que nous sommes des pécheurs? Et nous sommes des pécheurs sauvés. Et nous sommes toujours, toujours, nous resterons pécheurs. Mais nous avons quelqu'un qui nous aide chaque jour de se débarrasser de ce péché. Car le sang de Jésus-Christ nous lave. J'ai été aux États-Unis il y a une semaine. J'étais au Texas. Il faisait chaud. J'avais apporté mes vêtements un peu de l'hiver, des sous-vêtements longs, et puis j'avais un peu chaud au Texas. Et puis je suis revenu mardi matin, et tout était couvert blanc. Alors je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce passage d'Ésaïe. Si vos péchés sont rouges, sales, dégoûtants, le sang de Jésus-Christ nous lave et nous sommes plus blancs que la neige. C'était bon, je pensais à ce passage-là. C'est ce que Dieu a fait dans ma vie. Il a couvert toutes mes iniquités avec son amour, avec son rédemption par Jésus-Christ. Est-ce que En nous remettant en question, est-ce que nous avons vraiment pensé que Dieu nous a aimés? Non seulement il nous a cherchés, mais il nous a aimés. Et il nous a aimés dans l'état où nous étions. Pas quand nous étions un bon garçon. Quelqu'un a dit il y a longtemps à Reba, tu sais, Reba, Stéphane n'était pas comme ça. Il n'était pas gentil comme ça. Il nous persécutait. La vérité est ceci, que moi, comme jeune homme, j'étais très curieux. Je suis rentré dans une assemblée de gens comme ici. Et puis j'étais instigé par le curé de mon église, car il disait que ces hérétiques là-bas, qui se réunissaient dans la maison, et il y a sur chacun, il y a un petit diable qui danse. Alors, étant un jeune homme curieux, j'ai tout vu, je connaissais tous les pommiers, tous les poiriers dans le village, je connaissais tout. Mais un petit diable, je voulais le voir. Alors, je suis allé, et puis j'ai trouvé que le curé était menteur. Il n'y avait pas de, par le diable. Mais je pensais aussi ceci. Peut-être il m'a vu, ce diable. Il avait peur de moi. J'avais d'autres copains qui sont venus pour examiner la chose. Alors, en sortant de leur milieu, j'ai jeté encore un coup d'œil par la fenêtre. Il n'y avait rien. Alors, mais il y avait des cantiques et puis du Nouveau Testament sous la fenêtre, c'était pendant l'été. Je commençais à jeter sur les gens pour voir s'il y a des réactions. Il n'y avait rien. Alors ce gamin, plus tard, il est devenu un homme, il était aux États-Unis, et puis on s'est retrouvés, et puis il dit à Reba, tu sais, il n'était pas toujours gentil, il nous persécutait. Donc, je n'étais pas un garçon, j'étais très, 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 j'étais là où il ne fallait pas. Enfin, dans un mot, je n'étais pas un garçon modèle, plutôt le contraire. Alors, j'aimerais vous amener à un passage où Dieu parle de l'amour. Et peut-être vous avez appris ce passage par cœur quand vous étiez dans l'école du dimanche. C'est Jean chapitre 3, verset 16. Et je pense que presque tout le monde peut le réciter par cœur. Qui sait? Qui ne peut pas réciter ce verset par cœur? Je vais lever vos mains. Très bien. Alors, je vais vous apprendre ce matin et vous n'oublierez jamais. Quel est votre nom?
Milka.
OK. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que Milka ne périsse point, mais qu'elle ait la vie éternelle. C'est comme ça que je lis ce passage pour moi-même. Dieu a aimé ce garçon plein de toutes sortes de méchanceté, plein de choses de faire du mal plutôt que du bien. Il m'a tellement aimé qu'il a donné son Fils. À quel point il m'a aimé? C'est dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul explique cela dans le chapitre 5. Chapitre 5 de Romains. Peut-être vous pouvez lire plus tard, mais je vais vous souligner ce qu'il est dit ici. Dans le chapitre 5, à partir du verset 10, il est dit ceci, que Dieu a démontré, a manifesté son amour envers nous lorsque nous étions sans force. Lorsque nous étions encore des pécheurs. Lorsque nous étions encore des ennemis de Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu, en Jésus-Christ, nous a réconciliés à lui. Il nous a justifiés. Il nous a sauvés. Vous savez, il y a des gens qui peuvent dire l'heure exacte, le jour, quand ils étaient sauvés. Eh bien, moi, je connais aussi le jour et l'heure. Mais ça ne correspond pas, comme les gens le disent. Pour moi, j'ai été sauvé quand Jésus-Christ, sur la croix, a dit, c'est fini, c'est tout accompli. L'amour de Jésus-Christ, de Dieu, était manifesté et ratifié par les paroles de Jésus-Christ. Tout est fini. Donc, voilà ce que je crois au sujet de Jésus-Christ, qu'il m'a tant aimé quand j'étais encore loin, loin de lui, quand je me baignais dans le péché, dans la boue de ce monde. Donc, faisons tout afin de plaire à notre Dieu, à Jésus-Christ. Et comment nous pouvons le faire? Parce que Jésus-Christ n'est pas là. quelqu'un d'ici était là, moi je ferais, je lui laverais le pied, je lui préparerais une bonne pizza, ou je lui préparerais un bon steak, steak de cheval, etc. Mais l'apôtre Pierre nous donne un exemple comment il faut faire. Et si vous attendez jamais à l'église quelqu'un se plaindre qu'on ne fait pas assez, posez-lui cette question qui se trouve dans l'épître de Pierre, 1 Pierre chapitre 4 verset 10. Mettez-vous chacun selon le don qu'il a ou qu'il a reçu en Jésus-Christ et en Dieu, que ce don soit au service les uns aux autres. Et cela pour l'honneur de Jésus-Christ et Dieu. Que cet honneur soit totalement honneur qui peut glorifier Dieu. Voilà. Chacun de nous a un don pour servir dans l'Église. Examinons-nous quel est notre don. Ne soyons pas assis sur nos dons, mais faisons quelque chose. Faisons ces choses afin que nous puissions dire avec l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors ça vaut la peine de se remettre en question. Est-ce que je crois ainsi? Est-ce que je vis ainsi pour Dieu, pour mes semblables, pour mes frères, pour ceux qui sont dehors, qui ne connaissent pas Dieu? Est-ce que ma vie peut les attirer à Jésus-Christ? Parce que il y a ce dicton, ce que tu dis, je ne peux pas entendre, parce que ce que tu es hurle tellement fort, je ne peux pas entendre. Donc, soyons des gens qui veulent se remettre en question, s'examiner, et surtout à la fin de cette année, et puis à la fin de ce siècle. Merci bien pour votre attention.
Oui, Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce de nous avoir donné la liberté ce matin de se réunir pour être édifiés, pour entendre ta parole, Père, et les encourager les uns les autres. Aussi, Père, apprends-nous à nous remettre en question lorsque le doute s'installe en nous et lorsque nous avons besoin de se réexaminer pour savoir où est notre place par rapport à ta parole. Apprends-nous à être aussi sage et garder vers ta sagesse plutôt que celle des hommes. Oui, Père, t'as donné ton Fils pour nos péchés. Tu nous as fait ce don si grand et si incompréhensible pour le monde que nous ne pouvons que t'aimer, Père, et faire ta volonté. Même si parfois nous sommes confrontés aux problèmes de ce monde, nous voulons maintenant, Père, que tu nous encourages chaque fois que nous faiblissons. Garde-nous sous ta protection cette semaine, Père. Et sois avec tous ceux qui n'ont pas pu venir ce matin, selon leurs besoins, selon leurs maladies, soit-elles spirituelles ou physiques. Oui, Père, nous voulons avoir une pensée aussi à tous nos frères et sœurs malades, afin que tu les soulages selon leurs besoins. Père, confiant à ce que tu es toujours notre guide, nous voulons te remettre cette prière au nom de ton Fils Jésus. Amen. Bon dimanche.